Le titre de notre réflexion de ce matin sera « Trouver un second souffle ». Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi répètes-tu Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Le verset 27 commence par ces paroles « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi répètes-tu Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Et si ce matin nous remplacions Israël, si nous remplacions Jacob par nos propres noms, par nos propres prénoms, « Pourquoi dis-tu Olivier ? Ma destinée est inconnue devant Dieu. Pourquoi es-tu quelque peu, es-tu de celui qui dit « Mon droit passe inaperçu devant l'Éternel ?» Pourquoi ? Pourquoi ? Combien de pourquoi pouvons-nous avoir dans notre vie ? Et en lisant ce passage ce matin, je me suis dit que l'état de cet homme était l'état d'un homme qui était fatigué. L'état de cet homme était était l'état d'un homme qui était lassé, qui avait besoin de retrouver un second souffle. Et peut-être est-ce le cas de quelqu'un ce matin. Avez-vous fait un bout de la marche avec Jésus ? Avez-vous commencé depuis peut-être des années et des années à avancer et à marcher avec votre Dieu ? Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à vous poser ces questions. Est-ce que Dieu me connaît encore ? Est-ce que Dieu m'aime encore ? Est-ce que Dieu s'occupe encore de moi ? Certes, il l'a fait pendant des années auparavant. Certes, j'ai vu sa main se poser. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il connaît encore ma destinée ? Est-ce qu'il a encore un plan pour moi ? Est-ce qu'il a encore des projets devant moi ? Et ces paroles, eh bien, elles résonnent dans notre cœur et elles doivent être gravées. Parce que si nous pouvons nous fatiguer, si nous pouvons être lassés, eh bien, ce passage dit que le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, lui, il ne se fatigue pas et il ne se lasse pas. Oui, tu es connu de Dieu. Oui, tu es aimé de Dieu. C'est une certitude. Nous avons cette assurance, comme ce matin, nous l'avons entendu au travers de nos spirituels. Malgré nos chutes, malgré nos erreurs, Dieu continue à nous aimer. Dieu continue à nous aimer. Que son nom soit béni. Et il nous tend encore la main. La marche chrétienne est une course de fond, nous le savons. L'important n'est pas de courir vite, mais l'important est de courir jusqu'au bout. Nous savons que c'est bien de commencer, mais le plus important, c'est de bien finir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et un marathonien, alors qu'il entame sa course de plus de 40 km, il arrive à un moment, et c'est un moment physiologique, et tous y passent, tous doivent le trouver, ce moment où il doit trouver un second souffle, une énergie nouvelle, une force supérieure. Son organisme doit s'habituer et doit aller puiser en lui-même, doit trouver son rythme de manière à véritablement pouvoir aller plus loin. Je crois que dans nos vies chrétiennes, et peut-être est-ce le cas de quelqu'un ce matin, as-tu besoin d'un second souffle ? Et je crois de tout mon cœur qu'au travers de ce passage, au travers de ce texte, la volonté de Dieu, c'est de nous communiquer un renouvellement. C'est de nous dire il est possible de continuer à avancer. Il est possible de continuer la marche. Il est possible de franchir de nouvelles étapes. C'est normal. Vous savez, la marche chrétienne n'est pas forcément une marche qui est toujours une croissance linéaire. Mais parfois, il y a des paliers, des sas de décompression, où nous avons l'impression qu'il ne se passe finalement pas grand-chose, mais où là, le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit travaille en nous. Et des moments où nous avons besoin, à notre tour, de trouver un second souffle. Dans la parole de Dieu, on voit bien des hommes qui ont eu besoin de trouver ce second souffle. Le premier que nous pouvons voir, c'est le psalmiste Asaph, dans le psaume 73. Psaume 73, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. en voyant le bonheur des méchants. Cet homme a un coup de pompe. Cet homme de Dieu est en train et a attaqué la marche chrétienne depuis bien longtemps. Il a servi Dieu, notamment au travers du chant, au travers de la louange. Et là, il se retrouve tout d'un coup à avoir un coup de pompe. Pourquoi ? Parce que autour de lui, des hommes, des femmes commettent le mal et ils semblent être bénis de Dieu. Il semble que leurs actes sont approuvés de Dieu. Et lui, il est en train de courir laborieusement en respectant les règles. Il ne coupe pas à travers champs. Et pourtant, il voit bien des hommes et des femmes commettre le mal et rien ne se passe. Et dans son cœur, il dit, mon pied a bien failli chanceler. J'ai bien failli tomber. Seigneur, ce n'est pas juste. Moi aussi, je veux couper en travers champs. Moi aussi, je veux m'accorder des pauses. Moi aussi, je veux breaker. Moi aussi, je veux utiliser des substances illicites. C'est difficile la marche avec toi, mon Dieu. Et pourtant, eh bien, ceux qui ne marchent pas avec toi, ils semblent être agréés. Ils semblent eh bien, qu'ils peuvent tout faire et que rien ne leur arrive. Alors que pour moi, qui suis fidèle, les choses sont difficiles. Les choses sont compliquées. N'avons-nous jamais ressenti cet état de cœur ? Et cela n'a-t-il jamais généré ce que l'on pourrait qualifier de coup de pompe spirituelle, d'hypoglycémie spirituelle ? C'était presque la chute, c'était presque l'abandon de la course pour Asaf. Il était prêt à arracher le dossard et à repartir en arrière. Ce sentiment d'injustice, nous avons pu le vivre. Au verset 16 de ce même psaume, Asaf va confesser même que ça va être pénible à ses yeux. Mais il va se poser. Il va rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Il va poser les questions à Dieu. Et tout d'un coup, la révélation va se faire à son cœur. Vous savez, quand on discute avec Dieu, quand on recherche une réponse de la part de Dieu, tout d'un coup, les choses deviennent évidentes. C'est quand on discute avec nous-mêmes que les choses restent floues. C'est quand on discute avec nos propres cœurs, avec nos propres raisonnements, que les choses restent floues. C'est quand on voudrait imposer nos vues aux vues de Dieu que les choses restent floues. Mais à partir du moment où il y a ce cœur à cœur avec Dieu et où on rentre dans ce temple et on lui dit « Seigneur, je veux comprendre ce qui se passe. Montre-moi ta vision des choses. Montre-moi comment tu vois les choses, toi, de ton ciel de gloire. Moi, j'ai une vision à court terme. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je ne vois pas plus loin que la minute que je suis en train de vivre. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu d'éternité. Tu connais toutes choses. Alors éclaire-moi. Montre-moi plus loin. » Parce que Asaph va faire cette démarche-là, tout d'un coup, la lumière va se faire dans son cœur. Et il va se rendre compte, au verset 25, au verset 19, que leur fondement n'est pas sûr. Toute leur vie peut basculer sans que rien ne puisse l'empêcher. Comme je le dis de temps en temps, regardez les magazines People. Les hommes et les femmes qui, en théorie, auraient tout pour être heureux, et dont la vie bascule, dont la santé bascule, du jour au lendemain. Combien d'hommes autour de nous avons-nous vu ? La vie a été enlevée, malgré des fondements qui paraissaient sûrs. Des couples ont été déchirés, malgré des fondements qui paraissaient sûrs. Ne nous fions jamais aux apparences, mais fions-nous aux promesses et à ce que la parole de Dieu nous dit. À ce que nous vivons avec Dieu, à ce que Dieu, à la vision que Dieu communique à nos propres cœurs. Il va s'apercevoir que finalement ils sont susceptibles de glisser à tout moment. Et avec ce constat, un second va se faire dans le cœur d'Asaph au verset 25. Il va confesser que lui, il est conduit. Tout d'un coup, il va réaliser sa propre sécurité. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais que dans ton cœur, à ton tour, tu puisses réaliser que tu es en sécurité. Même si tu te sens instable, comme marchant un petit peu comme un fil, comme sur un fil, même si tu te sens toujours vacillant, parfois un petit peu faible, tu es en sécurité tant que tu es dans la main du bon berger. Même si dans tes propres forces, tu te dis, mais Finalement, tout est quelque peu vacillant chez moi. Mon couple, tout n'est pas toujours parfait. Ma famille, tout n'est pas toujours parfait. Mais réalise que le Seigneur, le roi de gloire, marche devant toi. Et quand cela tu es en sécurité, quand cela tu es tranquille, quand cela tu peux compter sur celui qui est le bon berger, qui te conduit dans la vallée, dans les verts pâturages comme dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es gravé dans sa main. Tu es gravé dans sa main. Nul ne t'en ravira. Tu es en sécurité. Asaph va réaliser qu'il a un rocher, que sa vie est fondée sur un rocher. La conviction que bâtir sa vie sur Dieu, c'est bâtir sa vie sur le roc. Il y a cette belle parabole de Jésus que l'on connaît, avec ses deux maisons, la première qui a été construite sur le sable, un beau château construit sur le sable, et puis une seconde, une maison peut-être, qu'on peut qualifier, c'est mon imagination fertile qui le dit, sur le roc. Et puis, la maison qui était sur le sable faisait beaucoup d'admiration, peut-être. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette maison, qu'est-ce qu'elle s'est construite vite. Et tout d'un coup, la tempête va venir. Et les choses vont être renversées. Tandis que la maison qui était bâtie sur le roc, elle va tenir. Elle va être solide. Et je crois, mes frères et sœurs, que ça, c'est une révélation de la part de l'Esprit de Dieu. Ça vient du constat d'un homme qui se dit, oui, j'ai un coup de pompe, qui est dû à l'injustice que je suis en train de voir. Mais j'essaye de comprendre et j'essaie de voir ta vision. Et le psalmiste, tout d'un coup, va réaliser que la vision de Dieu est bien différente de la vision que lui pouvait réaliser. Asaph était fatigué. Et vous savez, quand on est fatigué moralement, spirituellement, même physiquement, notre vision des choses est parfois trouble. On voit du noir. Les petits détails deviennent bien souvent des choses énormes. Les taupinières deviennent des montagnes. Mais au travers de cette réflexion, la vision du psalmiste va s'éclairer. Pèse la sécurité que tu as en Jésus-Christ. Pèse la stabilité que tu as en Jésus-Christ. Et il conclura ce psaume en disant ce verset superbe. Et ce constat superbe, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Ceux qui commettent l'injustice ne le peuvent pas. Mais moi, je peux m'approcher de mon Dieu. Je peux avoir cette relation avec mon Dieu. Je peux prier avec mon Seigneur. Je sais que je peux véritablement m'approcher de lui, qu'il entend mes prières, qu'il comprend mes souffrances, qu'il comprend mes douleurs. Parce que le Dieu d'éternité fait attention à la voix de ceux qui le craignent. Tu peux t'approcher de ton Dieu. Mais nous avons conscience, comme le disait Samuel, du privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu. De pouvoir prier librement, sans aller dans un lieu particulier, là, sous notre douche, ou bien au volant de notre voiture, pouvoir prier notre Dieu. Pouvoir dire, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu vois, cette douleur que j'ai là. Tu vois, cette souffrance que j'ai dans mon cœur, cette culpabilité que j'ai, ben, Seigneur, au travers de ton sacrifice, eh bien, tu me pardonnes et tu l'enlèves. Quelque chose d'extraordinaire. Et on réalise que s'approcher de Dieu, c'est ça notre bien. Et au travers de la louange individuelle, ce matin, nous nous sommes fait du bien en nous approchant de Dieu. Hein, nous faisons du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième exemple d'un homme qui a eu un coup de fringale, c'est le prophète Élie, nous le connaissons bien. Si pour Asaph, ça a été le constat de l'injustice qui lui a fait du mal, pour le prophète Élie, ce sera le découragement. Malgré tous ses efforts, malgré le mont Carmel, ce lieu où l'autel de l'Éternel a été placé, l'autel des Baals a été placé, et où le feu de Dieu est descendu sur l'autel d'Élie, et que ainsi la puissance de Dieu a été manifestée. Rien n'a changé. Élie, déprimé, va dire dans un lieu désert, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il va dire, j'ai déployé mon zèle pour Éternel des armées, mais rien n'a changé, je suis toujours seul. Rien n'a changé. Marcher fidèlement J'ai marché courageusement. J'ai marché avec intégrité. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé dans ma famille. Mon mari ne croit toujours pas. Mon épouse ne croit toujours pas. J'ai jeûné, j'ai prié. Pourtant, mes enfants, eh bien, ne sont toujours pas au Seigneur et je ne vois rien qui bouge. J'ai déployé mon zèle. J'ai servi fidèlement. Je n'ai pas eu la reconnaissance en retour. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Et là, on va sous un genêt. Donne-moi la mort. C'était pas n'importe qui, Élie. Fait du bien de voir de tels hommes de Dieu avoir des coups de pompe. Non ? Enfin, moi, ça me fait du bien, personnellement. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé un exemple, un modèle. Et on va voir ensuite que Dieu va pourvoir. Il va quand même falloir 3 événements ou à 3 reprises pour que Élie soit relevé. Il va falloir qu'il soit nourri par 2 fois d'une manière quasi surnaturelle et ensuite que l'Éternel aille le trouver dans la caverne. Et là, au travers de quoi va-t-il être renouvelé, le prophète Élie ? Au travers d'un souffle fragile, un souffle léger. Non pas au travers d'un tremblement de terre, non pas au travers du tonnerre, etc., mais au travers d'un souffle léger. Le roi, le souffle de Dieu. Et une mission va lui être donnée. Va oindre Jéhu, fils de Nimshi. Élie avait besoin d'un second souffle pour continuer le service. Dieu va le lui donner. Dieu veut te donner ce second souffle à toi qui es découragé. Jézabel va rester en place. Mais Élie lui sera debout. Le peuple ne reviendra pas à l'Éternel. Mais Élie sera debout. Et il connaîtra la fin que nous avons dans les Écritures. Il sera enlevé, il ne connaîtra pas la mort. Il s'est relevé. Il a continué à marcher. Il a continué à avancer. Crois, mes frères et sœurs, de tout mon cœur, que nous pouvons être dans nos cavernes ou sous nos genêts, peu importe, bloqués en nous-mêmes, découragés. Découragés par la vie. Dieu passe et communique un second souffle. Dieu passe, renouvelle notre zèle, notre ardeur, notre capacité à nous approcher de lui. Sors de ta caverne et viens rencontrer ton Dieu. Ferme la porte de ta chambre et va rencontrer ton Dieu. Tes murs ne trembleront pas. Le lit ne changera pas de place. La table de nuit sera toujours au même endroit. Mais dans ton cœur, il y aura ce murmure doux et léger qui passera. Continue la marche. Et sur ton cœur, Dieu donnera une dimension nouvelle, un rêve nouveau. Troisième exemple que nous pouvons trouver, c'est celui du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 15, verset 18. On connaît le contexte. Hein. Jérémie travaille contre les gens de son époque. Il annonce le jugement qui est à venir si le peuple ne se repent pas. Et à côté de lui, ce que je qualifiais de prophète professionnel, annonce qu'il n'y a rien de grave, qu'il n'y a aucun souci. Et le prophète, tout d'un coup, va dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comment ça se passe? Moi, la difficulté à servir Dieu dans un contexte difficile. Et là, il va y avoir cette promesse de Dieu, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et cet encouragement de Dieu à son prophète, Jérémie, aucun compromis. Peut-être que dans le cœur du prophète, il y avait ce désir tout d'un coup de dire, ce serait plus facile si une fois au moins je disais comme eux. Ça serait plus simple si au moins une fois je pouvais être d'accord avec eux. Mais Non seulement je ne suis pas d'accord, mais personne n'est d'accord avec moi. Je suis seul. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Aucun compromis, Jérémie. Je crois qu'il en va de même pour nous. Si nous voulons retrouver ce second souffle, si nous voulons que Dieu nous donne ce second souffle, Dieu ne pourra pas nous le donner alors que nous sommes assis entre deux chaises. Mais Dieu le communiquera à ses enfants qui seront fidèles et qui sauront affirmer les vérités essentielles de l'Évangile de tout leur cœur, de toute leur force et avec conviction, même si parfois c'est difficile. Reste fidèle. Reste debout. Reste saint. Marche dans la plénitude des Écritures. Et peut-être seras-tu comme le prophète, emmené en exil avec le reste du peuple. Peu importe. On demeurera des hommes et des femmes de Dieu pour notre génération. Des hommes et des femmes de Dieu debout pour notre génération. Capables de changer les choses au travers de notre prière, de notre consécration, et d'amener des hommes et des femmes à la connaissance de la vérité. Pas de compromis. Pas de compromis. Conclusion. Je crois que le second souffle, il est communiqué essentiellement à ceux qui marchent. Et vous savez, il y a ce psaume que j'aime énormément, que je cite souvent. L'Éternel renouvelle les forces pendant la marche. Non pas alors que l'on est assis, mais quand on est en route. Je crois que parfois, pour trouver le second souffle, il est nécessaire premièrement d'être capable de s'alléger de ce qui peut freiner notre course. Vous avez essayé déjà de courir avec des boulets au pied? Au début, on peut. On peut faire quelques kilomètres avec des choses un peu lourdes dans notre vie. Imaginons que l'on vous met quelques parpaings dans vos poches, des grandes poches. Vous pouvez courir. Vous pouvez avancer, il n'y a aucun souci. On peut avancer dans la vie avec des briques, avec des cailloux dans notre sac. Mais pour ceux qui ont fait l'armée, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai lu Astérix Légionnaire. On peut courir avec un sac à dos, etc. Mais c'est quand même plus pratique de courir sans. On peut avancer dans la vie chrétienne et dans notre vie tout court avec un sac chargé de pierres. Et il arrive un moment, on s'aperçoit, on se dit, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est lourd ? Qu'est-ce que c'est difficile ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de couper et de se décharger du sac ? C'est quoi votre sac ? Ça mériterait une prédication. Elle est sur mes notes, mais je ne vais pas la faire. Péché. Activités diverses et variées qui nous prennent du temps, qui nous mobilisent l'esprit et le cœur. C'est quoi vos sacs ? Dieu veut nous donner un second souffle. C'est sa volonté, c'est ce qu'il souhaite. Mais cette condition que nous soyons également capables d'enlever des pierres et d'enlever des choses de notre vie. C'est également, deuxième chose, deuxième point de cette conclusion, être capable de s'alléger des victoires d'hier pour en remporter de nouvelles. J'aime beaucoup ce texte dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 et au verset 13 lorsqu'il est dit que David sortait et rentrait à la tête du peuple. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. David rentrait et sortait. Et la foi, et on connaît bien ce récit, où David n'est pas sorti à la tête du peuple. Il a vu une dame très belle qui était en train de se baigner. Et là, il a commis l'adultère. Mais David rentrait, sortait à la tête du peuple. Et ses victoires d'hier, il les oubliait pour en remporter de nouvelles demain. On peut avoir dans notre sac toutes sortes de victoires d'hier. Mais au lieu, si elles nous donnaient des ailes dans le passé, aujourd'hui elles deviennent des freins. Dans le sens où on vit au travers d'elles. Et on ne vit plus au travers de celles que Dieu veut nous donner. Il y a des victoires devant toi à prendre. Ne te contente pas forcément de celles que tu as pu remporter hier. Même si elles nourrissent ta foi, même si elles te font du bien, elles n'ont pas vocation à être tout pour toi. Troisième chose qui peut alourdir le sac, c'est la culpabilité. Et on a ce texte de Philippiens 3:12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la version parole vivante est traduite, j'ai été totalement empoigné par Jésus-Christ. Je continue ma course afin de saisir totalement le prix, oubliant ce qui est en arrière. Je suis tout tendu vers ce qui est en avant, tendant. Je suis tout tendu vers ce qui est en avant. Quelle belle formule. Tout en moi et vers ce qui est en avant. Jésus a tout payé hier. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour pardonner mes péchés. Je ne laisse plus mon passé venir polluer mon présent et mon futur. Mais je crois que Jésus a soldé la note, a payé la note, que tout a été accompli à la croix et que je suis pardonné. Alors j'avance dans la nouvelle carrière qu'il m'a ouverte. J'avance avec foi, avec confiance, dans l'amour qu'il m'a accordé. J'avance avec la certitude que je suis aimé de lui et que mon passé est derrière et qu'il a oublié, qu'il a lié en gerbe et jeté derrière son dos. Et je continue, par sa grâce, à avancer avec lui et pour lui. Que le Seigneur nous aide. Et si nous sommes de ceux, de celles qui soufflons, et je le redis, ce n'est pas un péché. C'est un état normal de la marche du chrétien. D'avoir parfois besoin de franchir une étape et de retrouver un second souffle. Mais il est nécessaire pour cela de se tenir devant le Seigneur. Il est nécessaire pour cela de couper parfois les lanières qui, de nos sacs à dos qui recèlent bien des pierres et de s'examiner. Et de dire, Seigneur, je continue, j'avance avec toi. Et je sais que tu seras fidèle. Je sais que je suis avec toi, que tu me conduis. Je sais que tu es ma sécurité et ma stabilité. Alors que ton nom soit béni. Amen.